Point numéro 7. Dans la prolongation de ce que nous avions fait, notamment sur la prise en charge des jeunes scolaires en cas de petites difficultés de comportement, on va dire ça comme ça pour rester poli, eh bien nous avons la possibilité d'engager une procédure d'habilitation auprès du service pénitentiaire et de probation en vue de permettre l'accueil par les services de la commune de personnes condamnées à des peines de travaux d'intérêt général ou des peines de travaux non rémunérés, donc les fameux TIG. Je laisse la parole à Loïc Masson.
Oui, donc c'est une proposition qui est faite puisque puisque Bussy-Saint-Georges est particulièrement impliqué dans le cadre du CISPD, et donc on a l'occasion d'échanger avec des représentants de la PJJ donc et du SPIP pour les auteurs de délits. Et c'est donc une mesure alternative, et c'est pour ça qu'on propose donc cette procédure qui permet contribuer à la démarche de réinsertion du public sous main de justice et de prévenir la récidive, donc c'est quand même un double objectif, et d'assurer la visibilité de la mise en œuvre d'une sanction au profit de la collectivité, et ça permet de renforcer le partenariat justice collectivité territoriale. Il faut savoir qu'il y a un échange qui est fait avec le représentant donc du SPIP qui viendrait avec la personne, et en fait la mairie est quand même libre de valider ou pas je dirais le candidat, hein. Donc c'est un point important. Vous voyez dans la note que la durée du travail général du travail non rémunéré donc est comprise entre 20 et 280 heures sur une période qui ne peut excéder 18 mois. Il s'agit d'une peine réservée aux majeurs ou aux mineurs donc au plus de 16 ans et qui ne peut être prononcée en cas d'absence du prévenu à l'audience ou contre sa volonté. C'est bien une démarche volontaire de la part de l'intéressé. Donc la collectivité a l'obligation de prévoir un personnel dont un référent tuteur passé condamné dans une équipe volontaire pour l'accueillir, veiller à ce que les conditions de travail respectent les obligations en matière de droit du travail, fournir le matériel nécessaire à l'activité ainsi que de rester en étroite communication avec le juge d'application des peines, le JAP. Les travaux proposables sont l'amélioration de l'environnement, les travaux d'entretien, la rénovation du patrimoine, le travail de manutention, les actions de solidarité, contribution à des actions de formation, tâches administratives et l'accueil. Voilà, donc je répète hein, sur l'aspect donc volontaire de la personne, donc une peine alternative pour la justice, et donc un choix de la collectivité d'accueillir ou pas la personne. Oui, c'est surtout en fonction de la condamnation, donc c'est pour ça.
Madame Brunel, mettez votre micro.
Oui, Monsieur Masson vient de dire que Bussy était particulièrement impliqué dans le CISPD. J'avais plutôt compris que Bussy, maire l'avait dit, n'avait pas intégré sa police municipale, ce que je comprends et je ne conteste pas, dans le CSPD. Donc, particulièrement impliqué, je crois que ce n'est pas exactement le bon terme. Alors, je voulais vous demander...
Je vais juste répondre.
J'ai une autre question, oui, après.
Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je dirais, sur le CISPD, puisqu'effectivement, depuis la nomination de Frédéric Nyon à la tête du CSPD, nous travaillons très bien avec le CLSPD, et Bussy est présent à toutes les réunions du CLSPD.
Oui, d'accord.
Alors pour le public, le CLSPD, donc le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, qui va gérer notamment cette problématique-là. Le seul point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, sur la trentaine de points sur lesquels nous sommes d'accord, c'est la création d'une police intercommunale in extenso, c'est-à-dire que Marne-et-Gondoire prend la compétence intercommunale qui pose des problèmes juridiques de pouvoir de police du maire qui sont très compliqués, et surtout qui peut déshabiller la ville de Bussy-Saint-Georges, je dirais, au profit de l'intercommunalité, puisque à Marne-et-Gondoire, toutes les communes ne sont pas dotées de police municipale comme la nôtre, bien évidemment. Et donc voilà, donc c'est le seul motif pour lequel, effectivement, je ne suis pas d'accord, et je l'affirme, je le confirme, de la création d'une police intercommunale. Donc pour l'instant, Jean-Paul Michel serait parti plutôt sur la création d'une police intercommunale sur les voiries d'intérêt communautaire. donc entre guillemets des gardes champêtres qui viendraient effectivement surveiller les espaces verts et donc ça n'a pas beaucoup de sens non plus, je dirais. Mais bon, ça c'est une décision d'un président et pour l'instant je ne la conteste pas. Mais je ne souhaite pas la création d'une police intercommunale à ce titre-là. Je suis par contre favorable à ce qu'il y ait des mutualisations sur les centres de qui visionnent aujourd'hui les images des caméras de vidéoprotection et ça c'est plutôt un dossier qui est en cours et qui est plutôt favorable.
Non mais attendez, monsieur, je n'ai pas du tout, je dis juste, c'était juste pour être complètement impliqué, c'est vrai on n'était pas non plus avant favorable à la mettre à la police municipale à la disposition de l'intercommunalité. Une question sur ce texte, quelles sont les communes de Marne et Gondoire qui ont fait cette démarche, quel est l'intérêt, l'objectif pour la commune de faire ça? Quelles sont les communes quelles sont les communes dans les environs qui ont fait cette démarche, d'après vous?
Voilà. Alors,
c'est une demande d'information. Ouais,
j'ai en tête Saint-Thibault-les-Vignes.
Ouais.
Après, il y a une démarche de la part de nombreuses communes sur l'agglomération pour accueillir. Donc, c'est en cours.
Donc, ce sont les Bux-Saint-Georgiens.
Non, pas forcément,
de toutes communes, partout.
Exactement, mais en fait, c'est oui, parce que faut savoir que la justice, donc le SPIP, on recherche aussi des collectivités, donc des partenaires pour la prise en charge. Et ça, c'est une. Ouais. Et donc ça, c'est ok. Vous me posez une question, Et donc ça, c'est un thème que l'on aborde au CSPD. Donc M. le maire a précisé sur la police intercommunale, mais il y a quand même plusieurs thématiques. Il y a la tranquillité publique, donc tout ce qui est vidéoprotection. Il y a les jeunes, donc la récidive, donc la délinquance des jeunes. Et donc il y a des actions qui sont menées, et donc on a parlé des mesures de responsabilisation, puis on a voté une délibération pour le collège Monet, et il y a le collège Cousteau qui a validé en conseil d'administration lundi dernier. Il y a aussi un groupe de travail sur les violences intrafamiliales, donc violences conjugales et aussi pour les enfants. Donc c'est quand même un travail soutenu qui est réalisé au quotidien, donc ça n'est pas que... ce n'est pas que la police intercommunale, donc on a droit de ne pas être d'accord sur un point, mais on travaille ensemble.
Quel est l'intérêt pour la commune de Bussy d'accueillir personnes condamnées à des peines de travaux d'intérêt général ou peines de travaux non rémunérés qui viennent d'autres communes?
Oui, voilà. C'est pour lutter contre la récidive, Mme Brunel.
Oui, d'accord. Quel est l'intérêt d'avoir une démarche propositive? Voilà. Et quelles sont les communes de Marne et Gondoire qui ont eu cette démarche?
On vient de vous répondre aujourd'hui à Saint-Thibault-des-Vignes et d'autres communes, effectivement, qui réfléchissent dessus. C'est participer au service public de la justice parce que vous avez les délinquants qui sont à Bussy ne sont pas forcément tous Bux-Saint-Georiens. Donc on a aussi effectivement des gens qui viennent de l'extérieur pour commettre des actes à Bussy-Saint-Georges et de dire également à tout processus judiciaire, nous prenons aussi notre responsabilité là-dessus et nous allons démontrer effectivement que la peine a aussi un côté pédagogique. Donc je souhaite moi effectivement que nous rentrions là-dedans, je souhaite notamment au niveau des écoles le faire et je vous rappelle que depuis la nomination du nouveau commissaire de police de l'ANI, Michel Soistier, nous faisons avec lui des opérations importantes sur le centre-ville et notamment sur le RER, des opérations qui vont être en cours dans quelques jours sur la délinquance routière également, et que le fait que nous participions à ce type d'opération permet aussi de faire passer des messages au service de justice. Donc voilà, en termes d'image, de service public et finalement de collaboration entre tous les services, c'est quelque chose de très positif. Et croyez-moi, quand une personne va se retrouver à Bussy, et comme le disait Loïc tout à l'heure, c'est un choix, on va nous proposer des personnes, et en fonction, je dirais, des risques que nous aurions amenés à prendre, on choisira, on dira oui ou non, nous pourrons effectivement participer à cela. Donc voilà, c'est un effort particulier qui ne va pas engendrer de coûts supplémentaires, je vous rassure, qui sera simplement de l'accompagnement et un peu de coaching. Et là-dedans, il n'y a pas que les délinquants tels qu'on peut les connaître aujourd'hui. Ça peut être un délit routier avec un cadre informatique qui viendra effectivement aussi faire son TIG à Bussy-Saint-Georges. Hein. Il n'y aura pas que ceux qui ont taillé les murs ou cramé des bagnoles. Quoi. Bien. Claire.
Merci. La démarche semble tout à fait louable. Par contre, le fait que la commune puisse faire le choix, enfin décider ou non d'accueillir la personne, n'est pas mentionné du tout dans le texte.
Ça, c'est la discussion qu'on a avec les services de justice, effectivement, qui vont nous présenter des candidats et qui vont nous demander notre avis.
C'est le SPIP qui propose, et donc si la ville est d'accord, donc en fait, c'est engagé. C'est à ce niveau-là que ça se passe.
C'est bien que ça se passe comme ça.
Ah, oui. Oui, tout à fait.
Monsieur Carré.
Juste une remarque par rapport au besoin de sécurité, effectivement, des Luxembourgeois, et le fait qu'a été cité des caméras de vidéosurveillance. Il se dit, et il a été écrit, que ces caméras allaient prendre un peu plus d'ampleur dans les mois qui vont arriver avec l'utilisation de drones pour poursuivre et développer encore la surveillance des uns et des autres. On peut y voir un intérêt positif, on peut aussi y voir une atteinte à la vie privée des uns et des autres, parce que le drone, je pense qu'il ne va pas filmer uniquement les allées et les rues, et il aura une capacité à surveiller au-delà, même dans les jardins des uns et des autres. Et donc, j'ai été un peu étonné de...
Alors, c'est une excellente question, et je te remercie de l'avoir posée. En fait, il y a deux types de surveillance par drone. Il y a le drone fixe, filaire, qui est relié à un câble, qui va monter au maximum à 70 mètres, et lui, c'est une super vidéo de protection, c'est-à-dire qu'elle est équipée du logiciel qui floute les parties privées. Donc, on va la fixer à un endroit, par exemple, c'est pendant la fête de la musique, par exemple, et qui va permettre, effectivement, comme on va le faire juste en face de l'esplanade des religions sur l'amphithéâtre vert, là où il n'y a pas de caméra pour le moment, et ça va permettre, effectivement, de jouer le rôle d'une super caméra. Aujourd'hui, et là je te rejoins complètement, des drones qui suivraient des patrouilles ou qui anticiperaient l'arrivée de patrouilles, à l'instant T ne sont pas équipés de logiciels de floutage de parties privées, ce qui est en cours d'édification. C'est pour ça qu'effectivement j'attends avec impatience que ce soit fait, et dans quelques mois ça le sera. À ce moment-là, ce qu'utilise aujourd'hui la gendarmerie ou l'armée pour être utilisé par les collectivités, c'est testé aujourd'hui dans le 91, et donc quand le drone va passer entre deux immeubles, la partie privative sera floutée, comme c'est le cas aujourd'hui, sur des vidéoprotections classiques et fixes. Voilà. Donc pour l'instant, l'intérêt que moi j'y vois, c'est de placer sur des manifestations où il y a un public important sur des surfaces importantes, d'avoir un drone filaire, ce qu'on appelle un drone filaire qui est relié par câble, et qui lui est une super caméra de vidéoprotection, mais qui est temporaire.
Oui, parce que les règles imposées pour la vidéoprotection seront les mêmes pour les drones.
C'est ça. Donc toute la difficulté aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il faut obtenir des autorisations de la Direction Générale de l'Aviation à chaque fois qu'on fait voler un drone. Et donc aujourd'hui, ce sont des prestations. De même, demain, ça sera internalisé quand on aura formé une partie de nos brigades sur les drones. Ce qui veut dire que la personne ou les brigades qui sont à terre voient sur leur tablette ce que le drone voit. Donc ce qui peut éviter, alors je rassure la population, on n'est pas dans une zone criminogène, je dirais, suffisamment fantastique, mais il faut faire savoir aussi que Bussy est dans ce dispositif-là. Je prends un exemple aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une technologie, c'est la délinquance en premier qui l'utilise. Et je prends deux exemples aujourd'hui sur Marne et Gondoire, où à chaque fois que des camions chargent leur matériel, eh bien vous avez des drones de voyous qui survolent pour voir effectivement le type de marchandises et ensuite attaquer le camion. Donc, à chaque technologie, il faut apporter la réponse qui y convient. Et je me positionne moi déjà dans une ville de 45 000 habitants futurs, dans laquelle il faut déjà faire passer les messages. Ça ne sera pas à Bussy. Voilà. Donc ça permet aussi, je dirais, en termes d'évaluation de la délinquance. Et aujourd'hui, nous avons à Bussy-Saint-Georges, confirmé par l'ancien commissaire et le nouveau commissaire, un taux de réalisation, c'est-à-dire d'arrestation des individus ayant commis des infractions à Bussy, à plus de 55%. Ce qui est assez exceptionnel. Ce qui veut dire que la direction scientifique de la police nationale de l'ANI est un super laboratoire. C'est-à-dire qu'effectivement, même quelques années plus tard, on arrive à relier les affaires et arrêter les coupables. Donc sur Bussy, qui est la plus grande ville de la circonscription, eh bien on a un taux de réalisation de plus de 55% et une baisse de la délinquance de 21%, ce que nous pouvons tous mutuellement nous féliciter. Très bien. Y a-t-il d'autres questions ?
La baisse de la délinquance, vous l'attribuez à quoi ?
Alors, à la fois par la performance que peut avoir la police nationale, la présence de la police municipale, la vidéoprotection, et demain, toutes les actions que nous ferons effectivement, notamment envers les jeunes et avec la lutte contre la récidive, qui est quand même, je dirais, quasiment 100% de la délinquance aujourd'hui. Donc, on est sur la totalité du dispositif. Donc, aujourd'hui, majoritairement, on est la collectivité ayant un taux de police municipale le plus important sur sa strate, et ça, forcément, effectivement, ça a un impact. Et nous avons une police nationale avec qui, aujourd'hui, nous pouvons travailler en toute connaissance de cause.
Excuse-moi, la police municipale, elle était déjà importante il y a 3-4 ans.
Oui, oui, enfin, mais ça dépend aussi du management, hein. De la police municipale. Quand les policiers restent au commissariat ou quand ils sont dehors, c'est toute la différence. Très bien.
Ouais, monsieur Dubos,
oui.
Les chiffres que vous prenez, on avait les chiffres 2016 qui étaient très bons. La préfète vous avait absolument félicité.
Mais je le conteste
pas. Quand il y avait un travail assidu avec le commissaire de police qui est parti.
Je ne le conteste pas.
Je vais dire, monsieur Mersignier le voyait beaucoup, il y avait des réunions, moi-même, il m'a appelé à 2h, 3h du matin avec le moins de trucs, il a juré, il y avait une coopération.
Absolument.
Et les chiffres que vous donnez, très bien, mais c'est à peu près, je crois, ce que j'avais en mémoire, ce qu'on m'avait donné, et tant mieux.
Mais ça n'a pas de rapport.
En 2016.
C'est pas ce que je dis.
Je veux dire, je crois qu'il y a eu des efforts de fait depuis 2014 sur la sécurité, et que les chiffres sont à peu près les mêmes que l'année dernière, ce qui me paraît très bien,
mais
j'espère.
Madame Brunel, c'est pas ce que je dis. J'ai pas contesté effectivement le fait que depuis 2014 la délinquance baisse. L'avantage effectivement, c'est que ça continue à baisser,
oui, bien sûr. Okay.
Et que effectivement les coopérations avec la police nationale, qui sont quelquefois un peu compliquées, des relations avec la BAC, les opérations nous faisons et que nous continuons à faire aujourd'hui et que nous allons intensifier puisque c'est une demande aussi du commissaire de circonscription, détermine aussi, ces éléments-là. Et quand on a eu deux ou trois familles qui, à un moment ou un autre, cassaient les voitures, notamment pour aller prendre les cartes grises, ont été neutralisées. Forcément, il y a un effet baisse aussi. On a neutralisé aussi deux familles de cambrioleurs, effectivement, qui agissaient sur Bussy-Saint-Georges. Forcément, ça baisse. Et quand on ouvre le périmètre sur des communes comme Bussy-Saint-Martin, Conches, Guermantes et autres, on a ce taux de réalisation qui est assez fantastique. Et c'est tout ce que je voulais dire, c'est que le taux de 55%, on ne le retrouve pas dans d'autres communes aujourd'hui à Marémondoir.
Peut-être juste une précision, monsieur le maire, par rapport à partir du moment où il n'y a plus de loyauté à un certain niveau, forcément, les choses dérapent. Et le fait de l'arrivée du nouveau patron de la police municipale a contribué largement à redynamiser et à réimpliquer les policiers municipaux dans le cadre de leur mission, plus le fait que nous avons, avec M. Masson et moi-même, donc, changé les effectifs de la police à hauteur de plus de 50%. Donc on arrive avec des gens qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus impliqués et qui ont envie de faire du résultat. Voilà.
Et d'ailleurs, qu'ils nous le disent aujourd'hui. Madame.
Dire que s'ils sont deux fois plus impliqués, on devrait avoir deux fois plus de résolutions qu'en 2015.
Oui, mais ils ont eu deux fois moins de temps, puisque ça fait qu'un an. Claire.
Effectivement, les actions, je pense, de prévention et de collaboration avec l'ensemble des services police et justice sont à mon avis, un point important. On parle de droit de ça, mais c'est un point essentiel.
C'est fondamental.
Et attention, pour répondre à Martine, c'est pas seulement deux fois plus d'interpellations, hein, c'est la police, c'est au quotidien, c'est une présence. Donc nous, la police de proximité, on sait ce que ça veut dire, puisqu'elle est mise en place à Bussy, et donc vous pouvez le constater aussi bien en centre-ville que dans les quartiers, et c'est aussi beaucoup de prévention.
Et on est revenu à un taux qui correspond à l'implication de la police municipale sur le terrain.
Absolument.
Après une baisse.
Martine Cordotil.
Oui, Loïc, je sais. Simplement, je pense quand même qu'il y a encore des axes d'amélioration. On est tous au courant de ce qui se passe en centre-ville au niveau de certains trafics. Et beaucoup de Bux-en-Georgiens s'en inquiètent aussi parce qu'on voit arriver des populations peut-être qu'on n'a pas vues avant. En gros, c'est la drogue, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même, ça reste un sujet.
Toujours, mais on est réactif et avec le commissaire, donc il y avait une opération.
Elle est allée à 4h de l'après-midi, la presse a dit que vous étiez allée à 4h de l'après-midi, on va faire cette opération.
Mais Madame Brunel,
Mais notamment quand vous faisiez des visites de nuit en plein jour, on peut toujours se poser la même question. Donc, les visites de nuit en plein jour, ça n'a pas de sens non plus. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous répondre. Quand on fait des contrôles de police à 14h et qu'on trouve, je dirais, des personnes avec de la drogue sur eux, quand on le fait le soir et on communique pas forcément dessus, on a des opérations aujourd'hui où on a réussi quand même à choper des jeunes amateurs avec 1 kg de cannabis sur eux. On va pas communiquer constamment, je dirais, là-dessus, parce que c'est des opérations de justice qui sont en cours. Et justement, aujourd'hui, c'est ce rapport-là. Quand on interpelle police municipale, un délinquant avec du cannabis, il faut impérativement que la police nationale puisse être disponible immédiatement, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et donc, aujourd'hui, on a des procédures qui nous permettent, effectivement, de déférer immédiatement les contrevenants sur ce dispositif-là. Donc, ce rapport-là, effectivement, est important. Mais vous avez raison, mais autour de la gare, c'est le point sensible. On a toutes les collectivités qui sont le long du RER A. Et d'ailleurs, on a entre collectivités et entre police municipale des alertes. Par exemple, sur des jeunes qui peuvent monter à Noisy-le-Grand et qui veulent en découdre sur le Val d'Europe, on est alerté. On fait des opérations de contrôle avec autorisation de la police de la RATP d'aller sur les quais, justement pour commencer à faire du contrôle d'identité. Donc voilà, tout ça, ça marche bien et surtout c'est su.
Si c'est que la police municipale, monsieur le maire, n'a pas le droit de faire un contrôle.
C'est pour ça que je parle, madame.
Donc c'est la police nationale dont vous parlez. On est d'accord.
Ne me donnez pas une leçon, je
donne. Non, on est d'accord. Et là, la police municipale n'a pas le droit de faire un contrôle.
Madame Brunel, écoutez-moi. Quand je fais des opérations de police commune, parce que j'étais en train de parler de mon rapport avec la police nationale, et donc c'est bien à deux que l'on fait, et non pas tout seul. Et donc, voilà. Donc on va clore ce débat intéressant. Monsieur Carré, dernière question.
Je voudrais juste revenir sur le fait, effectivement, de prévoir l'accueil de jeunes délinquants.
Mais pas que.
Dans le cadre de cette opération avec le service pénitentiaire. Sous la responsabilité de la collectivité, je comprends que c'est bien de la nôtre, de
oui,
collectivité, et donc je me pose question sur le fait de, est-ce que la collectivité a bien la compétence pour encadrer, animer, surveiller les jeunes délinquants en question, et est-ce que c'est pas un vrai métier autre que le métier pratiqué par les uns et les autres, qui sont les gens qui sont de l'équipe municipale.
Nous avons déjà travaillé en interne, je dirais, sur des points. On ne va pas les mettre dans tous les services. On va les mettre effectivement dans des services aujourd'hui qui sont aptes à pouvoir recevoir des personnes. Mais il n'y a pas que des jeunes délinquants. Il y a des délinquants et dont les peines ne sont pas des peines de prison et qui viennent faire un stage à Bussy. Ce sont des TIG. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des substitutions de peine. Donc, on n'a pas les délinquants dont on parlait tout à l'heure qui faisaient du trafic de drogue. On a effectivement des gens qui ont aussi fait des problématiques de délinquance de voirie, exemple conduite et autres. Donc, les délinquants forts, effectivement, eux, ils passent soit par la case prison, soit ils y passent jamais. Mais ça, c'est pas le problème. En tout cas, ils viendront pas dans la commune. Et en tout cas, on va pouvoir les stabiliser. Et c'est pas du stage. C'est de l'effectivité. Hein, vous avez aujourd'hui par beaucoup de TIG dans les associations. Vous avez beaucoup de TIG, et puis certains, je dirais, petits malins, ils pourront faire un stage dans la police municipale. Ça va les aider aussi.
Oui, puis c'est bien un partenaire avec le SPIP, donc ils sont aussi là pour nous aider, nous conseiller. Et Bussy-Saint-Georges n'est pas la première commune en France à mettre en place ce dispositif.
Absolument. Nous allons passer au vote, si vous le permettez. Donc, que je reprenne la délibération. Donc, d'adopter le principe d'accueil des personnes condamnées à des TIG ou des TNR, autorise le maire de la commune de Bussy à engager les démarches nécessaires à l'obtention de l'habilitation requise auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation de Seine-et-Marne, et de dire qu'une convention bipartite sera établie, récapitulant les obligations de chacune des parties. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? Deux abstentions. Merci. Adopté. Alors, Maison de l'économie et de l'emploi. Signature d'une convention de coopération avec la mission locale de l'emploi de Marne-la-Vallée, Valmebuée, donc aujourd'hui Paris-Vallée de la Marne, et qui consiste effectivement, puisque nous n'avons pas d'agence Pôle emploi sur Bussy-Saint-Georges, de pouvoir permettre un conseil de l'aide aux personnes en situation difficile, et notamment en recherche d'emploi. Et comme toute convention de ce type-là à l'échelle de Marne-la-Vallée, elle est assise sur un niveau au nombre d'habitants. Et donc aujourd'hui, le montant de la coopération pour l'accueil de ces jeunes et de ces moins jeunes est de 25 000 euros annuels. Et qui est un report de ce que nous avions l'année dernière. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Contre ? Abstention ? Merci beaucoup. Alors, dans le cadre des informations que je vous lis, puisque l'ordre du jour est épuisé, je termine juste effectivement ces informations-là. Et donc, vous avez deux informations que Madame la Préfète m'a fait parvenir, notamment sur un arrêté préfectoral du 10 octobre 2017 sur la société Suris et un arrêté préfectoral du 9 janvier 2018 sur la société Rabourdin, notamment sur des problématiques soit d'émanation, soit de système coupe-feu qui n'était pas, non pas aux normes, mais qui n'offrait pas suffisamment de garanties. La préfecture de Seine-et-Marne a mis en demeure ces sociétés de réaliser les mises en conformité qui étaient établies par l'arrêté. Et donc, ces mises en conformité qui sont en cours aujourd'hui ne l'ont pas été, et donc des astreintes ont été posées par la préfète par jour de non-réalisation. Donc, vous avez des montants qui sont quand même assez importants pour les deux sociétés, puisque de mémoire, vous en avez une qui est à 283 000 euros, donc d'astreintes pour la réalisation de ces mises en conformité, et la seconde, je cherche le chiffre, excusez-moi, je crois il est de 73 000 euros. Donc voilà, donc ces sociétés ont un laps de temps court maintenant, effectivement, pour réaliser l'ensemble des travaux. Et donc nous sommes attributaires, et en tant que maire de cette communication que je dois vous faire en conseil municipal pour vous en prenez connaissance, qui est fait maintenant. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. J'ai une information, effectivement, qui ne fait pas l'objet de débat. Vous le savez que les positions sur emploi fonctionnel de nos DGA ou de nos DGS, on a déjà eu cette information-là concernant l'ancien DGS, M. Schmitt. Et aujourd'hui, donc, l'information que je fais passer au conseil municipal concerne le non-renouvellement de détachement sur l'emploi fonctionnel de la directrice générale adjointe sur le poste occupé par Mme Dartigues. Dans le respect des textes en vigueur, article 53 de la loi du 26 janvier 1984, j'ai décidé de ne pas renouveler le détachement sur emploi fonctionnel de la directrice générale adjointe des services, Madame Véronique Dartigues, conformément au cadre légal. Ce point est informatif et ne donne pas lieu à débat ni vote. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Donc nous allons avoir un conseil municipal au mois de mars pour le ROB, dont la date va être fixée prochainement. Et je vous livre donc les décisions que j'ai prises en tant que maire au nom du conseil municipal. Le 15 décembre 2017, modification des actes de création de la régie d'avance et recettes pour le service du site Cœur de Ville. Le 20 décembre 2017, la concession de cimetière 3 terrains. Le 22 décembre 2017, un marché à MAPA, restauration, liaison froid des structures d'accueil petite enfance. Le 22 décembre 2017 également, désignation du cabinet Opidium. 22 décembre 2017, MAPA, toujours avant numéro 1, marché public relatif à la propreté urbaine de la ville de Bussy-Saint-Georges. Le 26 décembre 2017, fixation des tarifs de location des salles communales. 29 décembre 2017, signature avec l'association La Croix-Rouge et le CCAS de Bussy-Saint-Georges d'une convention de mise à disposition pour des locaux situés 4 avenue Jacques-Cartier. 2 janvier 2018, MAPA, accord cadre avant de commande, portant sur les travaux gros entretiens, rénovation et réparation courante à exécuter dans les bâtiments de la ville de Bussy. 3 janvier 2018, désignation du cabinet d'héritier dans le contentieux avec Orange. 10 janvier 2018, désignation du cabinet Claes et associés. Ça, c'est dans le cadre des outrages à police municipale. 16 janvier 2018, modification des actes de création de la régie d'avance et de recettes pour la médiathèque municipale. 25 janvier 2018, accord cadre de bon de commande portant sur les travaux de gros entretien. Et 25 janvier 2018, demande de subvention auprès du ministère de l'Intérieur pour un projet pédagogique de prévention routière pour les groupes scolaires de la ville. Et enfin, 5 février 2018, signature d'une convention avec l'association Fondazione di Corsica pour l'organisation d'une conférence qui a eu lieu il y a quelques jours sur la conférence de la paix avec le leader Di Mouvrini. Voilà, le Le conseil municipal est clos. Je n'ai pas oublié de point. Et donc nous nous retrouvons. Oui. Madame Brunel, vous vouliez poser une question.
Oui, je voulais poser une question. Nous voulions vous poser une question. Vous êtes...
Ah, je m'en doute un peu.
Non, mais vous êtes un homme public, vous êtes maire de Bussy-Saint-Georges, vice-président de Marne-et-Gondoire, président des Pas-Marne, vous avez été candidat au sénatorial. Nous voulions vous demander si vous êtes toujours secrétaire général de la Chambre des métiers de Seine-Saint-Denis.
Eh bien, puisque c'est une obsession que vous avez...
Je
vais vous le dire et je vais répondre.
C'est la transparence, c'est un homme public.
On va jouer la transparence. Et je vais vous le dire, je ne serai plus secrétaire général de la Chambre des métiers du 93 à compter du 1er mars.
D'accord. Merci.
De rien.
C'est tout. Ça pose un problème de statut. Ça pose un problème.